Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 22h30, on est là jusqu'à minuit et jusqu'à 1h du matin. Ensuite, avec Karine Galli, Walid Acherchour, Elton Mokolo et Maxime Chano, Manu Petit est là, Daniel Riolo, Florent Gautreau. Vous entendez les concerts de klaxon derrière nous pour fêter la victoire du PSG ici à Paris. Et on a la chance d'avoir, c'est pour les grandes soirées, il vient que pour les grandes soirées, passer quelques minutes avec nous. Christophe Dugarry nous rejoint. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Dugarry, ça va?
Salut les copains, salut à tous, bonsoir.
Christophe, est-ce que tu as l'impression que le PSG ce soir est entré dans un autre monde, dans le Gotha du football européen, de l'histoire du football européen?
Ah oui, bah, c'est oui, certain, oui, oui. Deux Ligues des Champions d'affilée, c'est certain, on n'a aucun doute là-dessus. Mais bravo, vraiment, ils sont courageux, impressionnants. Ils ont joué ce soir un adversaire qui est venu pour déjouer, qui est venu peut-être avec des armes. Et peu, voilà, ils n'avaient pas grand chose dans leur besace, à mon avis, cette équipe d'Arsenal. Ils n'avaient pas grand chose à proposer. Mais malgré tout, c'était pas facile de jouer contre eux. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont cassé un petit peu le jeu. Il y avait beaucoup de fautes en première mi-temps. Ils n'ont pas proposé grand chose. Et c'était pas si facile que ça de jouer contre cette équipe d'Arsenal. Même si Paris était supérieur. Mais ils ont su être patients. Ils ont su, voilà, je pense qu'ils ont été récompensés à juste titre. Sincèrement, c'est les meilleurs. Ils ont gagné, voilà, et c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Alors, on a beau tourner,
si on peut
virer,
ouvrir,
dans tous les sens.
Si on peut ouvrir ce débat, Christophe, et Manu va probablement intervenir parce que je vais parler d'Arsenal, puisque tout le monde dit depuis tout à l'heure Arsenal est venu et n'a rien proposé. Je suis pas complètement d'accord avec ça, moi, parce que évidemment tout le monde sait, dans l'after on a fait mille fois ces débats sur la manière de gagner ou la manière de pas gagner et ce qu'il faut faire, et tout le monde sait le football que je défends depuis 20 ans dans l'after. Maintenant, tout en défendant ce football que j'adore, qui est le football offensif, le football protagoniste, moi je dis pas qu'Arsenal ne propose rien. Arsenal propose quelque chose que peut-être on n'aime pas beaucoup, mais mettre en place un jeu défensif aussi efficace, moi j'ai toujours trouvé que c'était assez fascinant. Comme je trouvais fascinant, sans toujours aimer, ce que proposait le grand Atlético. Le grand Atlético, c'est l'Atlético de Simeone de 2016, 2017, de ces années-là. On peut ne pas aimer, mais c'est une proposition de football. C'est, franchement, la façon dont ils verrouillent, où ils ont empêché que ce soit Dembélé, Doué, les joueurs que d'habitude on voit virevoltant, les transitions du PSG, ils les ont empêchés. Non, c'est une... dire qu'ils n'ont rien proposé, je me permets de jouer sur les mots, Christophe, c'est pas vrai. Ils proposent, mais dans l'histoire du foot, il y a plein d'équipes qui ont proposé ce genre de football-là.
Tu as raison, à une seule condition, Daniel, c'est que ça gagne. Parce que si tu gagnes pas, tu te couches avec des regrets.
Et avec énormément de regrets. C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Et ouais, donc c'est en même temps, je vais tirer un truc. Moi, comme j'ai souvent dit dans Rotten sans flamme, c'est l'équipe que j'ai vu le plus jouer cette année, Arsenal. Je pense que cette saison, ils n'étaient pas capables de proposer plus qu'ils ont proposé sur cette finale. Alors ils ont proposé quelque chose, comme dit, ils ont proposé quelque chose qui était rang, qui n'était pas très agréable, pas très sympa à avoir joué, mais qui a posé quand même des problèmes à Paris.
Ouais,
il a fallu
vrai.
Que Paris soit patient, il a fallu que Paris trouve des solutions, il a fallu que Luis Enrique trouve des solutions aussi. Et je suis heureux, sans être exceptionnel, c'était pas le match de l'année, bien évidemment, on s'est pas régalé outre mesure, mais je trouve quand même qu'aller gagner ce match, ça fait preuve aussi d'un progrès du Paris Saint-Germain, voilà, sans forcément être exceptionnel, ils sont capables d'aller chercher des matchs, d'aller gagner des matchs. Et sincèrement, je c'est mérité et je trouve que, voilà, moi j'ai apprécié de voir encore
mérité,
une nouvelle fois ce courage de ces joueurs, cette solidarité, c'était vraiment super, quoi.
Moi je trouve que
vraiment, bravo à eux, ils ont été incroyables.
De Dugas, il y a un truc de plus cette année, c'est que le PSG a joué plein de matchs très différents. C'est-à-dire qu'ils ont joué bloc bas à un moment donné pendant une demi-heure à Liverpool en défendant comme des chiens avec pas de choses
contre
dans leur surface.
Contre le Bayern.
Oui, contre le Bayern au retour, mais en étant flamboyant aussi à l'aller de manière brillante.
Ah, à l'aller, ils ont subi le jeu à l'aller.
Oui, mais ils ont marqué, ils ont été flamboyants parfois. Ils ont été patients et mentalement très forts ce soir. Je veux dire que moi, ce qui me frappe, c'est ce PSG caméléon cette année. Beaucoup plus
c'est
que
la personnalité
passé.
De cette équipe.
Mais cette équipe-là, cette année, si elle m'a impressionné, c'est que là, ce soir, par exemple, à la mi-temps, on sentait que Luis Enrique lui tardait à la mi-temps parce qu'il voulait recadrer deux trois trucs, genre c'est pas fini, ne vous affolez pas, c'est pas grave, ça passe pas, on va trouver une solution. Et comme dit Dugas, c'est cette patience, cette intelligence qui est une forme de maturité. Donc ce titre, cette deuxième étoile, pour moi c'est l'étoile de la maturité. Déjà très très haut niveau, quoi.
Manu, t'es d'accord avec ce que dit Christophe là?
Oui et non. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'Arsenal est venu avec un plan. et qu'il a été conforté dans son plan au bout de 5 minutes. Oui. Et ça a tué un petit peu l'expression d'Arsenal, parce que là où je suis pas d'accord avec Dugas, c'est que si tu suis vraiment Arsenal depuis le début de saison, tu sais qu'Arsenal propose un autre jeu les 6 premiers mois de la saison, et que sur les 6 derniers mois de la saison, avec tout ce qui s'est passé sur les 3 dernières années où à chaque fois ils ont échoué à gagner la première ligue, et ben tu t'aperçois qu'ils resserrent les sangs et qu'ils resserrent les rangs, et en fait au lieu de jouer de façon romantique comme ça a été le cas pendant 3 années, ils se sont dit on va jouer un football pragmatique. Le problème, c'est que ce soir, le fait de marquer aussi rapidement dans le jeu, ça a conforté Arsenal sur sa qualité suprême, qui est une défense compacte. Et derrière, ils ont donné un mal fou.
Avec ce plan-là, il n'y a que comme ça qu'ils pouvaient s'en sortir, c'est en marquant très vite et en verrouillant.
Laissez-moi terminer quand même. Oui. C'est que ça aurait pu justement être concrétisé avec la fameuse occasion d'inverse juste avant la mi-temps. Si tu marques ce but-là,
Le plan, il
est imparable.
Oui, mais un plan peut pas reposer sur une réussite maximale, sur le peu que tu procures, quoi. Tu vois, au bout d'un moment.
Arsenal, ils ont pris 6 buts. Et d'ailleurs, ce soir, 7 buts en Champions League.
Et d'ailleurs, je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est un football pragmatique, parce que justement, c'est devenu un football dogmatique. Et leur dogme étant désormais, au début, on a cru qu'ils s'adaptaient, que d'une équipe offensive, c'était devenu une équipe défensive, et que donc pragmatisme veut adaptation. Là, c'est dogmatique. Maintenant, en gros, t'as l'impression que c'est une équipe absolument défensive, un peu comme l'Atlético de Simone était devenu un dogme. C'était un dogme. Nous attendons, nous bloquons, nous verrouillons. Tu penses qu'ils peuvent encore changer?
Bien sûr. Parce qu'une fois que t'as gagné le titre de champion qui te fuit depuis 22 ans.
Oui, peut-être qu'ils vont rechanger encore.
Je pense que l'année prochaine, le jeu va être différent et va revenir à ce que Arsenal sait faire de mieux, en fait.
Okay, c'est possible. Je suis d'accord. Au PSG, on a Christophe qui est toujours avec nous. Si Luis Enrique, je sais que vous en discutez souvent dans Rotten sans flamme, mais quelle est sa part dans le succès du PSG encore cette année, Christophe?
Écoute, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai vu qu'au bout d'une heure de jeu, j'ai trouvé que Paris avait du mal, proposait un peu toujours la même chose. Je me suis dit, bon, en deuxième mi-temps, ça va s'ouvrir un petit peu, parce que la première mi-temps, elle était sincèrement pas très, très sympa à regarder. Je me suis dit, ça va s'ouvrir. Arsenal a peut-être un peu baissé de pied, il faut proposer autre chose. Moi je pensais, tu vois, dans ma tête, je me dis ouais, peut-être Dembélé sur un couloir, il faut plus percuter. Je trouvais que Kvaratskhelia était timide, ça osait pas percuter, les 1 contre 1 ça les et pas, j'ai trouvé que cette équipe elle était
un problème.
Voilà, il fallait apporter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un petit souci de liaison.
J'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, bon. Ça a été un peu.
On va arrêter sur la liaison avec Christophe
Pour répondre à la question que tu lui poses, moi je trouve que son apport est plus important encore cette année. Parce que c'est cette année qu'il a dû gérer le fameux calendrier qui est devenu bâtard là, avec le mondial des clubs, les 6 mois où en gros il a fallu ne pas jouer, mais plutôt préparer la deuxième partie de saison en faisant tourner, en mettant de côté la Ligue 1. Certes, c'est devenu la politique du club, mais de toute façon, la politique du club, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Maintenant, le PSG ne joue que la Coupe d'Europe, ils ne jouent que la Coupe d'Europe, c'est leur choix. On peut le déplorer dans les débats quotidiens, parce que notre pain quotidien est un petit peu affecté par tout ça. Mais eux, dans leur plan de développement, ils sont là où ils voulaient être. Et l'entraîneur s'est adapté à la politique du club. Le club a dit, nous la Ligue 1, c'est comme ça que ça va se faire maintenant, nous c'est tout pour l'Europe, parce que le business il est là, parce que c'est là qu'on grandit et qu'on est en train de gagner des parts de marché un petit peu partout dans le monde. Et lui, il a répondu à l'exigence du club, et parfaitement bien. C'est-à-dire que la Ligue 1, il a perdu des matchs comme, je crois qu'on avait fait le compte sur les 10 dernières années, il y a eu que 2 saisons où PSG en avait perdu plus ou autant. En termes de jeu sur la Ligue 1, on n'a rien vu. En termes de joueurs sur la Ligue 1, on n'a pas vu grand chose. Peu importe, aujourd'hui, ce soir, les supporters du PSG, on le sait qu'ils s'en foutent de la Ligue 1 et que c'est la Coupe d'Europe et que la joie de ce soir, elle efface absolument tout de la première partie de saison. Mais Luis Enrique s'est adapté, il a répondu et il a emmené le club là où le club avait envie d'être.
Ensuite, on aura Fabrice qui est supporter parisien.
Il y a un double exploit, c'est pas le mot, hein. Il y a une double gestion qui est forte, celle de Luis Enrique bien sûr, mais celle du staff, puisque tu arrives par rapport à la saison, à tout ce débat qu'on a eu sur le nombre de matchs, à avoir ce soir les 10 joueurs de champ de la finale de l'an dernier, ce qui était peu probable quand on a vu la saison et les blessures se dérouler.
C'était pas si peu probable, mais à partir du moment où tu reposes tout le monde, tu fais en sorte qu'il soit prêt pour ça.
Donc c'est pour ça que je veux dire que l'exploit, il est partagé avec le staff et avec cette fameuse gestion des temps qui fait que tu arrives à ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à cette fameuse politique à laquelle moi-même, enfin sur laquelle j'étais sceptique, c'est-à-dire cette gestion d'un recrutement limité, on va y arriver avec ces joueurs-là, et ben c'est toujours pareil, de faire entrer dans la tête de n'importe quel joueur, dans la tête notamment de ceux qui sont entrés aujourd'hui, dont on dit là qu'ils auraient pu jouer contre Toulouse et qui sont allés tirer les tirs au but, de leur faire comprendre et croire, comme il l'a fait pour Zaïre Emery à une époque, comme il l'a fait pour Mayoulou, comme il le fait pour tant d'autres, vous êtes l'égal des autres et il n'y a pas de problème, j'ai pas peur de vous faire jouer, j'ai pas peur de vous faire entrer et j'ai pas peur de vous envoyer tirer les tirs au but. Je pense que ça, cet apport-là, maintenant qu'il est rentré dans la tête de tout le monde au campus, là, je pense que oui, il y a moyen d'en lobotomiser encore un peu plus.
Fabrice est avec nous, supporter du PSG ici à Dopo. Salut Fabrice.
Bonsoir à tous.
Fabrice, tu t'écoutes le débat là? Comment tu te positionnes toi?
Alors déjà, j'ai passé toute la saison à voir les matchs quasiment au Dopo, donc c'est l'occasion.
Oui, on peut dire qu'on a porté bonheur.
Exactement. On le terrain est largement
on a fait une saison pleine pour une première année ici.
Quand même. Fabrice a goûté toutes les pizzas.
Toute la carte, il la connaît par cœur.
Je la connais par cœur.
Et que des victoires. Ah non, on a une défaite Sporting, non? On doit être là le soir du Sporting.
Il y a eu Bayern aussi, mais ça compte pas tout ça. C'est pas grave. C'est fini.
Forcément effacé.
Allez, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Manu tout à l'heure. Ouais.
Attends, faut pas que tu tapes le micro sur la table. Vas-y.
Pardon. À un moment, le compteur était remis à zéro après le penalty. Ça n'empêchait pas, à mon sens, Arsenal de revenir à nouveau dans un match construit.
Bah, j'ai pas aimé la deuxième période.
C'était trop caricatural, les moindres touches, le moindre coup franc. C'était trop caricatural.
Je suis d'accord là-dessus.
Viens dans le micro, Fabrice.
Je pense qu'à ce moment-là, ils pouvaient proposer beaucoup mieux que cette fin de match où Paris a eu d'ailleurs plus d'occasions.
Moi, je parlais du début du match, du scénario incroyable et qui confortait leur plan, en fait.
Qui a conforté leur plan.
Après, c'est ce que j'ai dit. Si tu me laisses. Pas de souci. Moi, la deuxième période, je l'ai pas aimé non plus du côté de l'Arsenal. Et surtout, quand les cadors du PSG sont sortis, je me suis dit, là, quand je vois les changements d'Arsenal,
va les chercher.
Exactement. Et là, je me suis dit, c'est pas possible.
Et ils ont joué trop petit bras, mais enfin, tant mieux.
Moi, je vais comme ça. Hein.
Et je fais le parallèle avec Florent, et ce que tu viens de dire aussi sur la Ligue 1, parce que finalement, c'est l'équipe Ligue 1 qui a fini.
Bien sûr.
Cette compétition et qui a tiré les pénaltys. Donc, quelque part, c'est...
là, je pense que. Fabrice, bouge pas, les gars, Gilbert, on retourne en voir Jean-Louis Tour parce qu'il est avec du beau monde sur la pelouse à Budapest.
Et du beau monde.
Tu reconnais les gens du PSG, Luis Fernandez.
Il est avec un beau gosse.
Bien sûr.
Oh, le beau monde. Là, c'est du beau monde, là, vraiment.
Numéro 1 à l'école, numéro 1 de partout. Voilà.
Luis, c'est incroyable ce qui est devenu ton club. Hein.
Ben mon club, je pense que depuis 2 ou 3 ans, là, depuis qu'il y a un entraîneur Luis Enrique avec un staff et on va dire avec un directeur sportif comme Luis Campos et un président, les trois adhèrent, ils ont le même projet en tête, ils travaillent ensemble et ça se voit avec ce qui a été pris, ce qui a
surtout
été sélectionné.
Surtout depuis que le président parle moins et prend moins de décisions, c'est là où c'est mieux.
Non, mais mais il est aussi dans les réunions. Excuse-moi, tenez.
Oui, le mieux c'est.
J'en avais un, je vais pas te raconter le père-père là.
Je sais.
Là parce qu'ils ont fait, ils ont donné quelque chose dans le football français. On en a besoin d'avoir une équipe avec un collectif, avec un état d'esprit remarquable, une équipe qui joue ensemble, une équipe qui souffre, qui sait souffrir. Et là, ce soir, ils ont été chercher cette deuxième, et pourquoi pas la saison prochaine, ils cherchent une troisième. Voilà, ils font les choses bien, et c'est bien.
Il y a plus de limites. Sky is the limit.
Voilà, voilà. Là, c'est pour ça que moi, je suis content.
Mais juste Louis, le cœur de supporter du PSG que t'as en toi là, qu'est-ce qu'il a vécu ce soir?
J'ai vécu, ça n'a pas été facile, ça a été quelque chose, parce que cette équipe d'Arsenal, il faut aussi lui rendre hommage. Arsenal est quand même une dernière équipe qui vient d'être championne du championnat anglais, le championnat le plus compliqué, le plus difficile. Mais ce soir, quand on les voit, les Parisiens, ils ont eu toutes les peines à trouver des solutions par le jeu, et c'est pour ça que ça va bien. Et toi?
Louis, tu parles avec nous, avec les gens?
Non, mais on est sur la pelouse là, donc il y a des joueurs qui passent, il y a des adjoints, il y a du monde.
J'attends le petit Warren là, je voudrais que je le vois, le petit Warren, toi.
Voilà, non, mais là pour tout vous dire, le dites pas trop fort, on est sur la pelouse, moi je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais en tout cas on est là.
Louis, une question pour toi.
Tout va bien.
Louis, est-ce que dans le club aujourd'hui, dans le staff, je crois qu'il y a encore des gens qui étaient là à ton époque, au début des années 2000?
Oui.
Il y en a encore dans les tontons, il y en a encore qui sont là.
Il y a le tonton et
Dinette, il est encore là, Dinette.
Oui, puis il y a aussi mon ami Hakimi, Hakim, le docteur, hein, et que j'ai eu l'occasion de recruter. Mais bon, c'est, on sent que dans ce stade, il y a des personnes qui sont restées. Il y en a beaucoup qui sont arrivées aussi.
Hein. Et Louis, pour revenir sur le match,
oui.
C'est quand même plaisant que ce soit l'équipe qui mérite, qui a gagné à la fin.
Oui,
qui soulève le trophée.
Oui, non, c'est la meilleure équipe qui était sur le terrain. C'est quand même le Paris Saint-Germain. Ils ont eu quand même les meilleurs. On va dire les meilleures situations dans le jeu.
Oui, il y a une volonté de jouer, même s'il n'y a pas eu d'énormes occasions parce que c'était verrouillé. Ouais. Mais en tout cas, il y a une équipe qui voulait proposer du jeu offensif. Oui, bien sûr.
Évidemment. Dis-moi, Louis, quand même, moi je constate que les poulains, Luis Fernandez, Arteta, Inze, ça n'a pas marché. Hein.
Ah ouais, mais ils sont forts, ils vont au final, ça marche. C'est quand même
attendez,
pas mal.
Messieurs, écoutez, respectez-moi mes deux enfants, parce que ces deux-là, ce soir, ils ont montré comment bloquer, comment empêcher le Paris Saint-Germain de réussir et de faire le jeu de
ouais, mais Louis, le foot c'est marquer des buts, il faut attaquer, il ne faut pas que défendre. Ouais,
arrête, oui, tu dois le féliciter, Louis, parce qu'effectivement, c'est des gars à lui qui sont là.
Ils ont eu quand même pas mal de blessés, pas mal de problèmes du côté d'Arsenal. Quand même, il a mis une équipe et elle s'en est pas trop mal sortie. Est-ce qu'il y a pénalty en deuxième mi-temps, oui ou non? Pour Arsenal.
On a envie de dire oui.
Je trouve
sur les images qu'il tombe. Il tombe avant le contact avec Mendes quand même. Tu vois. Après, ça peut siffler, il n'y a pas de scandale en soi. Mais il tombe un peu avant.
Ce qui est gênant, c'est que ce que tu dis, c'est ce que l'arbitre a pensé, puisqu'il a tout de suite dit non. Mais je pense que Mendes tombe en espérant faire tomber son adversaire et pas du tout en espérant jouer le ballon. Donc là, t'as quand même un problème au foot à un moment donné.
Oui, Mendes avec son bras accroche aussi le joueur.
Les deux s'accrochent, mais à l'arrivée, il lui tombe dessus, quoi. Il lui fait un dire du catch.
Je te dis, l'arbitre, il était énervé parce qu'ils n'arrêtaient pas d'essayer de gratter les choses.
Jean-Louis, donc il est énervé, alors je te donne pas le péno. C'est quoi cet arbitrage là?
Moi, j'ai une question pour Louis avant de te laisser, Louis.
Oui.
Est-ce que ce soir, toi, Louis Fernandez, tu nous dis que Luis Enrique est devenu le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG devant toi?
Oui, je te le dis. Avec toute sincérité, il ne faut quand même pas se voiler la face. Il faut quand même le voir. Voir que cet homme a réussi quelque chose d'extraordinaire, à mettre un groupe, à le faire jouer ensemble, et quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un peu son turnover, c'est le turnover qu'il met bien dans la saison, et tout le monde se sent ensemble et se sent ensemble pour jouer ensemble et réussir ce qu'ils réussissent ensemble. C'est un groupe
turnover
c'est
qu'à l'époque Luis Fernandez vendait
j'ai déposé la marque, hein, t'inquiète pas, hein, maintenant c'est pas que il y a quelqu'un qui a dû me la prendre et il a dû la revendre à quelqu'un d'autre, hein. Mais bon, on va faire avec. Messieurs, je vais vous laisser parce que j'ai du travail. Hein.
Allez, merci Louis. Salut
Louis. Salut Louis. À bientôt.
Juste un truc, puisque Louis Fernandez parlait de Luis Enrique, puisqu'on a fait ce débat dans l'after sur Arteta, Luis Enrique, le match des coachs. Moi, je pense que c'était vraiment un match de coach et que ce soir, Arteta, il prend un peu cher. Non pas parce qu'il a fait ce qu'il a eu envie de faire. Il a assumé jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci là-dessus, comme a dit Daniel. Tu proposes un truc, tu assumes. Mais malgré tout, que Luis Enrique, avec son équipe bis à la fin, a gagné, et y compris psychologiquement, cette série de tirs au but que forcément Arteta avait préparé avec minutie, puisqu'on sait que là-dessus, coup de pied arrêté, etc., ils sont très forts et ils ont un très très bon gardien également. Je pense que là encore, parce qu'il y a une lutte entre les deux qui était très claire, on sait qu'ils avaient en travers de la gorge Arsenal le match de l'an dernier, qu'Arteta lui-même avait dit, et on le sait avec ce fameux dîner, qu'il pensait gagner et qu'il pensait avoir été plus fort même l'an dernier. Je pense que pour revenir au débat qu'on a eu dans la semaine sur ça, bah oui, Luis Enrique ce soir il a battu Arteta assez largement, parce qu'il y en a un qui est arrivé avec une équipe qui mérite plus ce soir de gagner. Vous disiez les stats quand même, 21 tirs à 5, 15 occasions à 7, hein, au passage pour le PSG, parce que c'est quand même, faut le dire aussi, c'est quand même très net. Effectivement, Arteta dans ce cadre là c'est un chemin risqué, c'est le chemin dont on parle souvent nous avec les Bleus sur Deschamps. Si, même si on n'aime pas le jeu, si ça gagne, très bien, on y va, on est content. Mais il faut que ça gagne. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller au bout et de gagner contre la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle.
Bah c'est les Bleus de 98. Ça gagne, c'est la fête, c'est les Champs-Élysées. S'ils avaient perdu, qu'est-ce qu'ils se seraient fait massacrer?
Le goudron et les plumes.
Eh ouais.
Bah oui.
Manu ne serait pas là avec nous. Hein. Il serait en Normandie, il tiendrait un bar tabac.
Ouais, PMU.
Je ne l'appellerai pas Dopo, je te le dis.
Tiens, comment tu l'aurais appelé?
Hein?
Manu. Comment t'aurais appelé?
Chez Manu.
Chez Manu.
Oui.
Chez Manu.
Chez Manu, ton bar.
Chez Manu.
Ouais. Bon. Non, le Jean-Louis Henriquet, toi, tu nous dis quoi, Manu, t'es impressionné. En plus, tu l'as connu quand il était joueur et tout.
Ah bah, lui rappelle pas ça parce que non, c'est pas le bon moment. Mais
il connaît le caractère du gars. Donc, est-ce que t'es impressionné par ce que tu vois ou est-ce que finalement tu mesures le travail parcours? Enfin, qu'est-ce que t'as envie de dire sur lui là après cette deuxième victoire?
En dehors du technicien, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est sa façon de se remettre en question personnellement, humainement, dans le contexte français. Parce qu'il est arrivé avec beaucoup d'agressivité.
Merci de dire ça, Manu, je suis content d'entendre
oui,
ça.
À chaque fois, c'était une espèce de duel. Tu avais l'impression au fait qu'il avait toujours besoin d'imposer justement son caractère, sa personnalité. Et en fait, il répondait toujours, souvent, dans le vide, sur des questions essentielles sur le jeu.
Il a changé, à la différence de Rolio Iglesias.
Même moi, tu vois, je ne le reconnais pas alors qu'on s'est côtoyé qu'une seule année à Barcelone. C'est que je le vois sourire, encore ce soir, je le vois serein sur le banc de touche.
Voilà, ce soir, s'il sourit pas, il sourit jamais.
Non, mais ce que je veux dire par là, mais même toute la saison, je l'ai vu sourire dans les conférences de presse, il s'est mis à parler français.
Il a changé.
Sauf que ses prédécesseurs ne faisaient pas du tout, même certains joueurs étrangers, même si après 5 années, ils font même pas l'effort de faire une phrase en français. Tu sens qu'il avait reçu une consigne au-dessus de lui en disant, ton image, il va falloir quand même que tu la changes.
Je parle pas du technicien. Mais je sais, elle était venue de moi, la consigne.
Je parle surtout, en fait, de l'individu, en fait, en dehors du technicien. Et je trouve que les deux, c'est une pièce de monnaie, en fait, qui ont permis au collectif parisien de se sublimer. C'est lui qui est l'architecte, en fait, de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain.
Tout à l'heure, tu parlais de la gestion de la saison.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir du mois d'août, septembre, où on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer physiquement, les mecs? Ils ont pas eu de vacances.
La gestion de la saison.
Et au final, on peut dire ce soir que c'était magnifiquement bien géré. Bah,
oui, non, mais je mets un bémol quand même. Arrêtez de vous enflammer pour tout à chaque fois, parce que Paris Saint-Germain a gagné une deuxième Coupe de.
Ah bah ouais, mais là, si tu t'enflammes pas là, Manu, on va faire
quoi? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de trouver des choses extraordinaires à chaque coin de rue, tu vois. Donc, tu permets d'avoir une gestion de ton effectif parce que tu joues dans un championnat qui est largement à ta portée. T'as 850 millions d'euros.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, il faut le dire.
De budget face à ton principal concurrent qui a 280. Donc, voilà.
C'est prends de Rinceau ou pas?
Je veux dire, les autres clubs dans les grands championnats ne peuvent pas se permettre cette gestion-là. C'est impossible.
C'est vrai. Bon. Dans un autre championnat, le PSG ne pouvait pas faire les choix qu'ils ont fait cette année.
Mais moi, ce sera tout le temps.
Et c'est pour ça que les supporters du PSG m'en veulent parfois. Parce que moi, j'ai le corps qui est coupé en deux à chaque fois. C'est que ça, c'est le truc que je n'accepterai jamais. C'est la façon dont ils traitent la Ligue 1. La façon dont ils ont organisé.
Même si on forçait le trait, ils gagnent.
Oui, mais écraser l'autre pour pouvoir te favoriser ta vie à toi.
Daniel Gilbert, juste deux secondes. J'ai Vikash Dhorasoo avec moi. Vikash Dhorasoo qui est là pour Canal Plus Afrique, qui bosse à l'équipe et tout, mais ancien joueur du PSG. Et quoi? C'est vrai, Vikash? Non, mais c'est quand même. Vous inquiétez pas, les gars, vous inquiétez pas. C'est qui? Mais moi, je suis personne, les gars. Par contre, c'est Vikash Dhorasoo qui va parler 2 minutes. Ah, finalement, non? Bon, d'accord.
Qui a interdit?
Je sais pas, autour de lui, il y a des gens qui ont fait signe.
Bah oui,
c'est bon, les gars, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes, ancien joueur.
Bon, Jean-Louis, on te laisse négocier et nous, on continue le débat.
Okay. Et j'aimerais dire une chose sur Arteta, en fait. C'est que tout le monde s'attend justement à un jeu incroyable et tout, mais sincèrement, moi qui suis Arsenal depuis tellement d'années, et encore cette année, je les ai suivis à quasiment tous les matchs, on ne peut pas demander à Arsenal de jouer mieux sur le plan offensif dans la mesure où les joueurs sont bons mais ne font pas partie des tops au niveau européen dans chaque position. Hormis Saka qui a été blessé pendant plusieurs mois, c'est le seul qui sort un peu la tête de la mêlée, mais tous les autres, c'est des bons joueurs, ce n'est pas des top joueurs.
Donc, mais attends, Manu, je suis désolé dans ce cas-là. Pardon, mais Doué, Dembélé, quand ils arrivent au PSG, ils ont été transformés en très grands joueurs. Parce que Dembélé, il suffit de lire les témoignages encore aujourd'hui, je ne sais plus, cette semaine, il y avait un peu le récit du passé. Personne ne misait sur Dembélé Ballon d'Or, personne ne misait sur le niveau qu'il a atteint. Doué, c'était un petit joueur, certes, tout le monde lui disait il a un potentiel incroyable, mais bon, les joueurs à potentiel, on sait ce que ça devient en France. Néanmoins, en arrivant au PSG, il s'est transformé. Il y a beaucoup de joueurs dont on n'imaginait pas à ce niveau. Arsenal, Gyökeres, il arrive pour combien? 60 millions minimum. Martinelli, Bukayo Saka.
La valeur d'un joueur sur
Bukayo Saka, il est annoncé comme petit.
En sachant qu'à chaque fois qu'il est de première ligue, il y a toujours 20% de plus.
Oui, mais c'est aussi au club de les valoriser, de les faire progresser. Peut-être en leur proposant une autre forme de jeu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Et techniquement, Arsenal, c'est très fort, techniquement.
Oui, d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi. Martinelli, ça fait 7-8 ans qu'il est au club. Il a jamais franchi un palier. Trossard joue de façon régulière en permanence, c'est un bon joueur pour le championnat.
Je comprends ce que tu veux dire. Il manque peut-être un mec un peu.
Mais d'ailleurs, moi je rebondis là-dessus.
Un game changer.
Puisqu'on est sur les coachs. Et sur ce qu'a fait Luis Enrique et sur ce qu'il a fait techniquement et mentalement, parce qu'il faudra rappeler aussi le gars qu'il a avec lui, Joaquin Valdés Fonseca, tu sais, qui est ce docteur en psychologie qui l'accompagne.
Merci à ça, vraiment.
Oui, mais
c'est très important.
Mais moi, j'attache une importance fondamentale à ça. Et là,
la psychologie. Mais tu as raison, c'est ce qu'il y a de plus important.
Lui, écoute, Luis Enrique l'a pris avec lui alors qu'il était entraîneur de l'équipe B du Barça. Pour te dire, il n'a pas fait genre en panique quand il a commencé à entraîner des grandes équipes. Il était persuadé dès le départ de ça. Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a la progression individuelle. Tu peux pas dire que Luis Enrique a pas effectivement changé des choses, au moins dans le QI foot de ses joueurs, tu vois. Et juste, je voulais.
Mais Flo, quand tu fais progresser sur le plan mental, tu progresses tout simplement aussi. En fait. Parce que tu te crois, tu te vois plus fort aussi.
D'accord, mais t'as raison. Mais à la fois dans le dépassement de fonction, dans cette technique et dans cette effectivement confiance en soi, il y a un point qui fait pour moi une limite d'Arteta pour l'instant par rapport à Luis Enrique, c'est que Luis Enrique se rapproche de Guardiola pour ça. Moi, quand Guardiola prend des joueurs dont on n'est pas sûr, tu sais, et qui deviennent de très bon joueur parce qu'il l'a fait, là tu dis là d'accord. Mais quand Luis Enrique prend ces joueurs dont tu parles, moi je connais Désiré Doué, il vient d'un bled à côté de Rennes, l'heureux, ok, il est très très fort, tout le monde le sait à Rennes, mais comme tu as dit, tu peux tomber dans l'oubli parce que c'est trop compliqué. Et ben il en a fait aussi en partie ce qu'il a fait là. Donc la grosse différence pour l'instant, puisqu'on parlait des coachs tout à l'heure, c'est que Luis Enrique, il est dans la catégorie des Guardiola, Arteta il n'y est pas encore.
Fabrice, je n'irai pas jusque-là. Il va y venir ou il y est déjà, sauf qu'après.
Il va peut-être y venir. Il va devoir faire un
ou deux joueurs te changent un petit peu la vie. Mais ce que tu dis, est fondamental sur l'évolution mentale d'une équipe trop longtemps. Le nombre de débats qu'on avait autour de certains joueurs sur il est talentueux, le potentiel, tu te souviens des années où le mot dans les émissions c'était le potentiel, j'en pouvais plus de ce mot-là. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à ça cette semaine en allant à Roland. Tu sais, il y a la fameuse phrase qui est tout en haut des gradins, la victoire appartient aux plus opiniâtres. C'est pas écrit la victoire appartient au plus talentueux. C'est pas écrit la victoire appartient à celui qui a le plus gros potentiel. Le plus opiniâtre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est celui qui travaille le plus, celui qui en veut le plus, celui qui est déterminé.
Et donc, se remettre en question.
Et ça, dans ce mot-là, il y a une dimension psychologique et mentale. Ce qui, pour moi, fait la diff au niveau du sport de haut niveau. Manu, toi, t'étais comme ça. Toi, t'étais une brute mentale. T'avais envie de tout déchirer.
Et Vieira,
à la base, t'étais pas forcément le meilleur.
Vieira petit, c'était ça, au meilleur.
Évidemment.
Manu dit rien, il acquiesce de la tête. Fabrice, tu voulais rajouter un truc ?
Oui, je vais rajouter parce que je pense qu'il faudra analyser. Évidemment que Luis Enrique rentre dans l'histoire ce soir définitive, il devient légende au PSG. Ce process, il a démarré. Daniel,
tu te souviens ? Wow, putain, sur le pont là-bas.
Nous sommes proches d'un pont de Seine sur la scène musicale où il y a actuellement un feu d'artifice géant.
Mais il y a une banderole aussi, il y a une banderole écrite.
Que dit la banderole ?
Très chaud.
Il y a écrit double champion, en fait, tout simplement.
Ah.
Mon Dieu.
Il faut faire quelques photos, c'est peut-être un. C'est un hommage à l'after indirect, puisque c'est juste devant chez nous.
Il y a des fumis sur la scène musicale, pour ceux qui ne voient pas.
Des fumis sur la scène musicale, exactement. Donc Fabrice, vas-y.
Donc ce statut de légende, il a obtenu, le process, il a démarré, Daniel, tu l'avais souvent dit, le match de poule contre Dortmund. Tu l'avais souvent, très souvent cité, et puis après l'évolution et ce match face à City. Et tout ce qui s'est passé avec les joueurs et Dembélé et même Barcola, qui est devenu un peu Bambi ce soir. Je suis content que vous ayez eu Louis au téléphone ce soir, parce que ça, il y a 30 ans, il a gagné la Coupe des Coupes, et ça c'est une vraie histoire.
96, absolument, il y a 30 ans.
Allez, on va faire une petite pause, et le temps que le concert.
Le temps que j'aille faire une petite photo.
Le concert et le feu d'artifice se terminent, et on revient ici, on est là jusqu'à minuit, et bien sûr, on prend l'évaluation. On aura Julien Laurence avec nous également tout à l'heure. L'after est là pour fêter la deuxième Ligue des Champions du PSG.
RMC, l'after foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 22h33, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec Emmanuel Petit, avec Laurent Gautreau, avec Daniel Riolo également, et Jean-Louis Tour qui est toujours au stade à Budapest avec quelques anciens joueurs. Le PSG a gagné la Ligue des Champions et c'est la fête un peu partout dans Paris. Nous on est ici au Dopo, le restaurant de l'after, où une sorte de parade pyrotechnique s'est organisée sur le pont qui mène à la scène musicale. Daniel, tu es allé tu t'es transformé en reporter.
Incroyable.
Que s'est-il passé?
J'ai la vidéo, je sais pas. Sur le pont,
ils sont
le
nombre là,
de.
Ils sont une trentaine.
Non, beaucoup plus. Le pont est complètement plein. Et ils ont allumé des fumigènes, une banderole. Certains étaient des gens. Alors, le truc, en revanche, que je trouve un petit peu con, c'est qu'il y en a trois qui ont plongé dans la Seine.
Ah.
Ça, c'est un peu con.
Oui,
c'est un peu risqué, un peu. Ouais, voilà, mais il y a toujours dans ces cas-là des débordements.
Je vais mettre la vidéo sur X.
Vas-y, j'allais le faire, donc vas-y, mets la vidéo. Ouais, exactement.
Bon, il faut évidemment que la fête. Reste positive et que tout se passe bien, c'est ce qu'on espère, qu'il n'y ait pas de débordement cette nuit dans Paris.
À chaque fois qu'il y a ce genre de choses, c'est ce qu'on espère. Ouais, oui.
Exactement. J'aimerais, et on va avoir aussi dans quelques minutes Thierry Barnera qui viendra avec nous décrypter la séance de tir au but, parce qu'elle est intéressante. Alors, c'est toujours intéressant.
À mon avis, il voudra parler du premier but encaissé par Safonov.
Il lève pas les bras, Safonov.
Non, c'est pas ça. Il va te dire que c'est pas juste qu'il lève pas les bras.
Ah bon,
il va te dire qu'il ne reste pas sur ses appuis.
Ne dis rien, on entendra, Flo, on entendra.
C'est un teasing. Mais il a fait, je savais pas en fait s'il avait fait vraiment une erreur ou pas, et il va vous expliquer ça et comparer justement avec quelque part une action un peu similaire que Raya a beaucoup mieux géré. Il va nous expliquer ça.
Raya, pour moi, il a fait un très gros match.
Il nous dira ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours sur le PSG et on continue là-bas. L'analyse du match, il faut qu'on rentre un peu dans les détails, Manu, parce que vous avez tous dit que vous aviez été très déçu par la première mi-temps. Oui, non, tu l'as pas dit, toi. T'as été déçu.
Non, moi, c'est la deuxième. C'est la deuxième, moi, surtout déçu du côté d'Arsenal.
Mais là, on parle côté parisien.
Ah.
Comment expliquer ces deux mi-temps là Paris entre la première descente et la deuxième?
C'est cool, je l'ai dit, parce que tu mènes au score rapidement, donc ça confirme le plan justement d'Arsenal où la qualité suprême c'est le bloc défensif.
Mais déçu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que le PSG, en prenant un but à la cinquième sur l'action, on voit c'est un dégagement, une espèce de contre un petit peu curieux, le ballon sur Havertz qui va mettre un but assez stupéfiant dans un angle très fermé. Voilà, t'es à la cinquième à ce moment-là. Tu sais qu'Arsenal vient avec un plan de jeu qui est verrouillé, ne pas laisser d'espace au PSG, et que c'est comme ça que tu vas le plus les emmerder. Tout se goupille bien pour eux. Moi, j'ai beaucoup de mal, une fois que ça démarre de cette façon, à dire le PSG a raté sa première période. Parce que oui, avec Manu, on regardait, on dit évidemment, on sait que dans ces cas-là, ça va passer par les duels sur les côtés, la différence qui doit être faite pour faire le premier décalage. Mais c'est pas si facile que ça, au fond. Parce que t'as des bons défenseurs, c'est quasiment quatre défenseurs centraux qu'ils ont.
T'as la meilleure défense d'Europe en face
Gunners,
de toi, quand même.
T'as la meilleure défense, c'est verrouillé, c'est un bloc plat. C'était un jeu défensif qui est hyper bien huilé. Donc, moi, dire que le PSG rate sa première période, je suis pas vraiment d'accord.
C'est pas que c'est facile. Moi, ce qui m'a juste manqué, ce qui m'a étonné, même si effectivement derrière il y avait toujours un deuxième rideau et que la défense d'Arsenal, on le savait, était rodée, c'est qu'il n'y ait pas plus en 1 contre 1 de tentatives de dribble, y compris de Kvara ou de Doué. Ils ne sont même pas allés les tenter. Ou quand ils les ont tentés.
Mais parce que le ballon n'arrivait pas à eux, c'était compliqué.
Si, ils se sont retrouvés parfois. Ils ont réussi à se retrouver en 1 contre 1 face à un défenseur. Ils ont renoncé à ce duel-là. C'est tout.
Moi,
là
à chaque fois, je voyais que c'était fermé. J'arrivais pas à voir comment ils pouvaient
y aller. Alors peut-être que derrière,
moi,
c'était fermé.
Pas
mais regarde, je vais donner un exemple de ce que le PSG aurait pu faire. C'est Nuno Mendes, le seul qui a passé l'épaule et qui passait sur le côté.
Mais n'oublie pas que tu as l'inquiétude aussi, surtout quand tu es mené. L'inquiétude aussi, c'est d'un peu trop te livrer, de prendre le contre. Et là, tu sais que ça va t'assassiner définitivement.
Manu n'est pas d'accord.
Ben non, je suis pas d'accord. Parce que quand tu défends dans ta surface de réparation, aux abords de la surface, il n'y a pas d'espace derrière toi. Donc tu fais comment pour les éliminer? On est contre un.
Ouais, mais Nuno Mendes,
il est passé. Avec Flo, pas avec moi.
Non,
je suis pas d'accord avec Flo. Ils ont tellement défendu
bas que
joueurs qui prennent justement l'initiative de faire du 1 contre 1 dans la zone, ils ont besoin d'avoir de l'espace derrière. Il se passe rien parce que les mecs ont défendu dans leur propre surface de réparation.
Moi, je parle par exemple d'une action typique de Kvara qui est que lui partait des deux
d'ailleurs
côtés.
Excuse-moi t'interrompre, mais regarde le penalty, ça vient de quoi?
D'un redoublement de passe et pas d'un
contre. Exactement.
D'un 1-2 presque.
Voilà.
Ouais. Non mais ça je suis d'accord. Alors ces passes dans la surface, dans l'axe, elles ont été. Non, il y a eu du déchet technique. J'ai trouvé des trucs assez étonnants sur des remises Hakimi, Kvara, sur des toutes petites remises dans le jeu très court. Il y a eu. Non, je pense quand même qu'on peut légitimement.
Ils sont à chaque fois sous pression. Très sévère, je trouve.
Sévère, mais je pense qu'avec cette équipe-là, avec ce niveau-là, tu peux être à ce niveau de sévère. vérité.
Ouais, mais pas contre une équipe comme ça qui verrouille aussi bien.
Parce que par exemple, ils ont fait, comme le dit Manu sur le but, ils n'ont pas tenté tant que ça la passe dans la surface pour aller chercher un 1-2. Et je le répète, Nuno Mendes, lui, il a réussi à faire ce passage, passer l'épaule et avoir la seule occasion avec un centre qui ressemblait un petit peu à ce que faisait
le but. C'est la seule fois où il est passé, c'est un latéral qui est venu justement. Ouais.
Non, mais en tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que cette première mi-temps, elle était quelque part injouable à partir du moment où à la cinquième Arsenal marque. Ça, c'est vrai, c'est très très dur.
Moi, si vous n'avez pas marqué, c'était obligé d'aller attaquer.
Ce qui est très très fort et ce qui est pour moi à la fois le regret d'Arsenal et la qualité, la grande qualité du PSG, c'est la façon quand même dont à la mi-temps ça a switché quand on les a vus revenir sur la pelouse et la façon dont le Paris Saint-Germain a repris la main quand même sur le match et aussi à la façon dont Arsenal, à part à la 60e, je les ai vus revenir un peu au pressing,
je vais te dire mon point de vue, j'allais dire je te dis la vérité, c'est peut-être pas la vérité, c'est mon point de vue. S'il n'y a pas ce péno, et ça fait partie du jeu d'aller le chercher, et en plus il y a 100% péno, il n'y a rien à dire, je ne sais pas si le PSG revient. Je pense que le plan d'Arsenal de verrouiller, de gagner 1-0, le pire des cauchemars qui était dessiné, c'était celui-là. C'était même tellement caricatural qu'on se disait, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais s'il n'y a pas cette preuve, c'est pour ça que je dis que Kvara ce soir est une nouvelle fois extraordinaire. Parce qu'il est allé le chercher, il est allé trouver la petite ouverture. Parce que sinon, ben à côté de ça, moi j'ai pas vu Raya faire des exploits, il a fait des arrêts, ok.
Sur
quand Barcola est lancé, voilà.
Barcola pousse trop loin son ballon, oui, moi je suis pas certain. La sortie,
sans le péno. Ok, le PSG, ils se font braquer ce match. Ils se le font braquer ce match.
Tiens, on va aller sur les Champs-Élysées où Kevin Morand est sur place en espérant que tout se passe bien pour l'instant, Kevin.
Alors Gilbert, il y avait environ 6000 personnes qui ont suivi le match ici en regardant sur le téléphone. Maintenant, ils sont environ 20 000. Alors je vais me reculer un petit peu parce qu'il y a des feux d'artifice qui sont en train d'être tirés dans ma direction. Mais voilà, donc ça se tend un petit peu parce que les CRS et les forces de l'ordre qui sont mobilisées en nombre ici, notamment pour protéger les façades de vitrines de commerce, interviennent de plus en plus pour procéder à des dispersions quand les groupes commencent à devenir trop gros. Mais voilà, il y a globalement une bonne ambiance, pas d'incident pour l'instant à signaler grave sur le haut des Champs-Élysées où je me trouve. De plus en plus de monde, environ 20 000 personnes, et donc des interventions des forces de l'ordre de plus en plus fréquentes.
Très bien, espérons que tout se passe bien. Évidemment, tu nous tiens au courant, Kevin. On a avec nous un nouvel auditeur de l'After ici au Dopo. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ah, est-ce qu'il marche ton micro?
Ouais.
Parle de
bonsoir à tous.
Ah, voilà. Ton prénom?
Enzo.
Bonsoir. Alors Enzo, tu viens de Belgique?
Exactement, c'est ça.
Est-ce que tu te bosses en Belgique?
Écoute, j'habite en Belgique depuis un peu plus de 4 ans, mais je suis quand même né à Paris. J'ai toute la famille ici à Créteil notamment, donc je reviens.
Tiens ton micro un petit peu plus haut. T'es pas voilà.
Je reviens dès qu'il y a un gros match, et notamment c'est la première fois ici au Dopo. Étant auditeur de l'After depuis quelques années, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez fait ici, et de vivre cette finale et de cette deuxième étoile. Ça a été quand même assez mémorable.
Bon, t'entendais notre débat là sur les différentes phases du PSG. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Honnêtement, je rejoins quand même assez l'avis de Flo par rapport à ça. Je pense que j'ai aussi été assez tronqué par rapport à la qualité offensive qu'on a au niveau du Paris Saint-Germain, notamment face au Bayern Munich au match aller. Je pensais honnêtement que même avec la qualité défensive d'Arsenal...
Tu veux dire t'as certains cadres offensifs qui ont été moins bons ce soir?
Alors moins bons...
On fera l'évaluation de tout à l'heure. Peut-être qu'on pourra dire que Dembélé, par exemple, a été moins flamboyant.
Bien sûr. Je pense que ça a été moins bon, mais il faut aussi souligner que la qualité d'Arsenal... Et c'est là où on se rend compte que cette équipe-là a été très très forte défensivement dans le bloc. C'était... Je pense que pour un attaquant, ça doit être un match assez horrible. Parce que même, on reprend l'exemple de Kvara, il aurait pu, je pense, aller provoquer un peu plus. Mais là où je rejoins Daniel, c'est que le seul petit espace qu'il a réussi à trouver, il provoque le pénalty.
Il y a un truc sur les attaquants qui est un tout petit peu dommage. Moi, c'est plutôt sur... Il y avait très peu d'espace.
C'est ça.
Non, mais très peu de moments où c'est quand ils n'ont pas donné là où il fallait donner. Je pense à Dembélé avec une frappe totalement ratée.
Il y a eu beaucoup de déchets techniques quand même, je trouve.
Il y avait Kvara qui pouvait aller trouver sur un petit centre. J'ai vu les frappes. Bah, Dembélé, une frappe très lointaine
dans les tribunes.
La frappe de Vitinha, certes, elle est belle, tu sais, à la fin, mais Vitinha, c'est rare qu'il ne cadre pas. J'ai trouvé qu'il y avait ça. Alors, sans doute que, comme dit Manu, c'est lié aussi à la qualité défensive d'Arsenal qui te laisse moins de temps pour aller frapper.
On a tous joué au football.
À peu près au même niveau,
à peu près tous au même niveau. On s'en fiche. Même si tu joues au niveau amateur au football, si tu rencontres en face de toi une défense extrêmement organisée, même si tu es talentueux dans le 1 contre 1, dans les zones à chaque fois pour essayer de défier ton adversaire,
L'illustration, c'est quoi? C'est le nombre de frappes lointaines qui ont été vendangées par des Parisiens. C'était un aveu d'impuissance, en sachant que c'est probablement la meilleure équipe sur le plan offensif dans l'animation offensive, et qu'ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé, ils n'ont rien pu trouver. Donc quelque part, quand tu fais des frappes lointaines, c'est que tu reconnais la supériorité de ton adversaire sur le plan défensif.
Mmh. Tiens, Arthur Perrault est avec nous, il est devant le vestiaire du PSG. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert. Oui, en salle de conférence de presse où Luis Enrique va pas tarder à arriver. Et on entend en fait le vestiaire qui donne sur la salle de conférence de presse, et les chants qui continuent de se succéder dans le vestiaire parisien. On est les champions, on est les champions, président, président. Voilà, la fête qui se poursuit.
Ils n'ont pas dit double prime. Non, elle a été validée avant, la prime, c'est bon.
Il y a une belle prime qui a été négociée avant, exactement. Mais voilà, la fête qui continue. Et Luis Enrique, à mon avis, n'est pas prêt d'arriver devant les journalistes qui sont déjà en train d'attendre.
On diffusera la conférence de presse en direct. Merci beaucoup.
La fameuse prime qui échoue à tout le monde, y compris ceux qui ont joué que quelques minutes, comme Njantou et compagnie. Ah bah, c'est le principe du collectif. Non, mais,
tout à l'heure, on parlait justement que Enrique était l'architecte de tout ça, et que depuis deux ans, le PSG, les supporters du Paris Saint-Germain vivent un conte de fées. Je crois qu'aussi, on a oublié de citer quelque chose qui pour moi était incontournable sur le succès que les Parisiens connaissent depuis plus d'un an et demi.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est que le foot est une expression collective qui sont sublimées par des individualités. Et là, on s'aperçoit que depuis qu'ils ont viré tous les égos, cette équipe, elle est libérée. Donc, tout à l'heure, pour reprendre ce que tu disais, Daniel, que
donc, tu accrédites ceux qui disent
c'est
que c'est
incroyable de voir comment les joueurs performent depuis un an et demi. Ils sont devenus pour la plupart des joueurs de classe mondiale. Alors c'est vrai que l'expression dans laquelle ils évoluent grâce à Luis Enrique leur permet justement d'avoir cette confiance et cette honnêteté envers eux-mêmes. Et donc tu le vois, et ça transpire dans le jeu. Mais ramène quelques égos mal placés et d'un seul coup la machine s'enraye. Pour moi, ça a été la première chose que Luis Enrique a faite en arrivant, qui a été une délivrance pour pas mal de joueurs. Je m'en rappelle et je vais vous donner un exemple.
Non, ce qui est le recrutement et le fait de nettoyer le vestiaire, c'est aussi Luis Campos, l'idée.
Oui,
et de toute façon, ils étaient arrivés au bout d'un process où de toute façon les joueurs devaient partir.
Déjà,
il y a eu de dire à Verratti terminé, de dire à Neymar terminé.
Oui.
Mais si ça se terminait tout seul,
d'accord.
Mais
tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait continuer avec le Paris Saint-Germain.
Mais je ne dirais jamais qu'avec Mbappé, tu gagnais pas la Ligue des Champions.
Non, mais pour que tu comprennes vraiment. Je donne un exemple. J'étais au match l'année dernière à Monaco, Monaco-PSG, quand Monaco gagne contre le Paris Saint-Germain. J'ai vu à maintes reprises sur le terrain Vitinha être l'ombre de lui-même sur le terrain, parce qu'il était presque en soumission face à Neymar, face à Messi, face à c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je m'en rappelle plus.
Il y a deux ou trois ans.
Et je me suis dit Mais comment c'est possible? Vitinha, c'est un superbe joueur, on ne le laisse pas jouer. Donc quelque part, je me suis dit, ces joueurs-là ont une telle emprise sur le collectif et sur le coach en lui-même, que Luis Enrique ne pourra pas mettre son truc en place. Donc moi, c'est mon avis. Ça a été la première pierre, justement, de ce qu'a construit Luis Enrique.
Ouais, bien sûr. Si je peux me permettre.
Oui, bien sûr, Enzo, vas-y.
Bien sûr, je rejoins Manu par rapport à ça. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, je voudrais souligner quand même, tu as dit un mot, la confiance. Même nous, en tant que supporters du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, même dans des matchs quand même très difficiles.
Je tremble.
Ça a été très long, très long, très stressant. Mais on a une certaine confiance, je pense, qui a été insufflée dans ce club, extraordinaire.
Parce qu'ils gardent toujours leur valeur collective, même dans
ça.
La difficulté.
C'est exactement ça.
On n'est plus dans l'individualité.
Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait que, faut quand même le dire, Paris Saint-Germain, c'est le seul club français, deux fois Ligue des Champions. Moi, j'ai souvenir.
Ça, c'est un petit coup pour les Marseillais, ça ?
Pas forcément, mais j'ai souvenir.
T'as jamais les premiers, quoi.
Trois Coupes d'Europe,
Il n'y a même plus la peine.
Voilà,
de
je pense
faire
que
des
le rival n'est plus là. Mais
le
c'est...
débat n'existe plus.
Bah, Enzo, écoute, merci d'être venu.
Merci à vous. C'est...
Et puis, c'est sympa de te voir avec un maillot de foot, parce qu'on a l'impression de retrouver Laurent Deux, le jeu 3-0.
Merci à vous, les gars. Je vous écoute tous les jours.
Zabarni miniature.
J'ai eu l'occasion de dire à Gilbert, je fais plus de 500 km et l'after m'accompagne tous les jours dans la voiture.
Ah bah merci à toi.
Franchement, génial. Une réussite. Merci à vous.
Merci
les gars.
Beaucoup.
Merci Enzo. À très bientôt.
Bonne soirée à tous.
Dans un instant, on retourne à Budapest, retrouver Jean-Luc Tour qui est revenu dans la tribune de presse, qui va nous dire ce qu'il a vu. Et on démarrera l'évaluation ensemble, bien sûr, avant de parler de la séance de tir au but, de la décrypter. Et avant de recevoir également, avant minuit, Julien Laurence, notre spécialiste du foot anglais, qui était à Budapest, enfin qui est toujours à Budapest. Finalement, il n'y a pas de pub. On revient. Oui, mais je. Non, on va faire une petite pause. Une petite pause quand même. Et on revient tout de suite. Et on revient tout de suite jusqu'à minuit.
RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
L'After est là jusqu'à 1h30 du matin. On est jusqu'à minuit ici à Dopo avec Manu Petit, Florent Gautreau et Daniel Riolo. Et puis jusqu'à 1h30, Karine Galli prendra le relais avec tout à l'heure Walid Acherchour, avec également Elton Mokolo, Maxime Chano qui seront là. Bon, on va pouvoir démarrer tranquillement l'évaluation, les gars, parce qu'il y a énormément de choses à dire ce soir. Démarrons.
J'ai oublié mon favori depuis tout à l'heure.
Ton favori?
Mais non, parce qu'on a parlé de Vitinha, c'est un peu surprenant ce titre-là du meilleur joueur ce soir. Merci, on me donne un verre d'eau parce qu'il fait très chaud.
Tiens, fais passer.
Pour toi, ça.
Bah oui, fais passer.
Et moi, j'aurais plus rien, tu vois.
Manu, bah si, si.
Non, c'est bon, champion du monde. Ouais. Champion du monde d'avoir Manu, non.
Non, c'est bon, okay. Les gars, ça
va. Foot amateur, alors c'est pour moi. Moi, c'est pas de chaud. Parce que, en fait, dans un match comme ça, paradoxalement.
Pas de chaud, tu le mets homme du match.
Bah, je mets homme du match parce qu'en fait, il y a eu des moments, si tu regardes bien, sur 2-3 actions, sur 2-3 transitions, sur 2-3 trucs, sauf d'ailleurs une erreur qu'il a fait, qu'il a rattrapé immédiatement. Je trouve que. Je me dis, mais moi, si j'étais à la place des autres autour de lui, mais j'adorerais avoir ce gars-là dans mon équipe. Le mec, t'as l'impression qu'il couvre 2-3 postes.
Moi, c'est pas lui. Moi c'est Neves. Que... Hein. J'ai
moi,
pas
c'est
vous,
mais... Neves aussi. Moi.
Ouais, ah, mais, bah, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce match où finalement tu ne t'aperçois pas de la défense parce que t'es très peu mis en danger, sur tous les moments, toutes les couvertures, toutes les petites transitions et tous les pressings qu'il a fallu.
Je suis pas d'accord avec toi non plus là-dessus. Ouais.
Je trouve parce qu'il a été, il a été incroyable et je pense que moi, par rapport à ses partenaires, c'est quand même c'est une sorte de pierre angulaire de poutre Paris Saint-Germain.
Moi, j'ai trouvé très bizarre le positionnement de la défense centrale sur l'ouverture du score.
Non, mais c'est Marquinhos qui a 100 km à droite. Les c'est deux, lui qui se fait contrer.
Les deux, ils sont à 5 mètres sur le côté droit. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas?
Voilà. Non, mais t'as raison, Manu. Marquinhos, souvent. Bah oui, je suis là. Marquinhos, plusieurs fois, il est allé suivre les décrochages et partir loin. En revanche, Pacho, lui, restait toujours en couverture. Ouais. Mais plusieurs fois, Marquinhos, je me suis posé la question.
Moi, je peux te dire que
je vais d'abord avoir les coulisses de ce qu'a fait Jean-Louis. Comment t'as réussi à t'incruster sur la pelouse?
Non, mais je dévoile pas mes secrets, mais.
C'est important ce qu'on me demande.
Il n'y a que 3 millions d'auditeurs qui t'écoutent.
Non, mais dans ces cas-là, personne fait attention au numéro de la CRED. Est-ce que t'as l'accès là ou pas? Tu passes, tu dis je travaille pour machin.
Puis voilà, c'est ça, les reporters qu'on aime. Au culot, je suis du PSG.
Non, il a dit un truc.
Là, j'ai un peu poussé quand Louis, on était sur la pelouse, pas loin de la surface de réparation. J'ai un peu poussé le truc et je crois qu'il y a 2-3 télés qui étaient pas contentes. Donc on a dû se déplacer.
Et c'est quoi l'embrouille? Pourquoi Dorasso il pouvait pas parler? C'était quoi l'embrouille?
Bon, ça, je sais pas. Il me dit oui d'abord, je lui mets le casque. Il me dit cite bien mes employeurs, je les cite. Et puis après, il me redonne en disant non, mais je vais avoir des problèmes.
C'est qui les employeurs?
On
va pas les reciter.
Il était là pour.
Il bosse encore à l'équipe, je casse.
Je sais pas.
Ouais, mais. Et Canal Plus Afrique, il m'a dit. Voilà,
d'accord.
Mais bon, je pense que c'est lui surtout qui a
et la salvagramme de poker.
Bon, peut-être. Bon, bref. Continuons l'évaluation.
Non, du tout.
Ah bon, pardon.
Louis, c'était là pour M6, d'ailleurs, il faut quand même le préciser. Voilà.
Très bien. Toi, tu disais, Manu, c'est moi, c'est pas Pacho que je prendrai en premier dans mon équipe. Toi, c'est Neves.
Je l'ai trouvé énorme du début jusqu'à la fin dans son volume. Mais également dans les ballons qu'il a récupérés, qui traînaient devant la défense, mais aussi dans son pressing. Il a été présent dans plein des domaines. Et je pense que lui n'a pas failli sur le plan physique, là où ça a été extrêmement éprouvant, même pour les gardiens. Tu as vu, Aria, à un moment donné, il a eu des crampes. Et je me suis dit, ce garçon, quand il voit sortir Dembélé, quand il voit sortir Kvaratskhelia,
Vitinha
et compagnie, il doit se dire, en fait, le boss aujourd'hui, c'est moi quoi, au milieu de terrain. Et c'est lui qui a assumé le rôle de boss au milieu.
Alors ce effectivement, moi je me suis fait la réflexion, c'est la finale du courage aujourd'hui, et je me suis fait la réflexion de savoir ceux qui avaient tenu. Et donc Pacho, bien
sûr. Il aurait même pu marquer un but d'ailleurs.
Et Neves fait un truc de dingue à la fin, quand il va dans la prolongue, dans la surface, c'est la prolongation. À droite, peut même encore progresser sur la ligne de but, mais il donne le ballon très vite. Donc je suis assez d'accord, et dans ce cadre-là, c'est tous ceux qui sont restés, Doué, Hakimi. Moi, même si je l'ai trouvé un petit peu en dessous, mais physiquement, il est quand même resté les 120 minutes.
Il a été un peu plus offensif que ces derniers temps, Hakimi.
Non, Neves, il était partout. Il était à la récupération, à la construction.
Il a sauvé des coups. Parce que, autant Flo, tu parles de Pacho, autant moi, j'ai déjà vu quand même la défense du PSG un peu plus sereine face au peu de dangers qui étaient créés par Arsenal. Il y a 2-3 ballons un peu bizarres. Alors que Neves, lui, il a rattrapé un paquet de coups sur ces ballons un peu entre deux, proche de la surface de réparation qui peuvent donner quelque chose.
Et même dans sa surface.
Il était toujours là. pour moi, des 3 milieux de terrain, c'est lui qui ressort le plus.
Ben même sur l'ensemble du match, hein, sur les 22 acteurs match, présents sur le terrain, je pense que c'est lui. Voilà.
Maintenant, passons à l'évaluation.
Moi, je n'entrerai pas dans ce jeu de qui a été le mieux ou le moins bien.
Pour toi, puisque, tu bien.
Ben non, parce que vous dites sans arrêt, et c'est ce qui se dit le plus autour du PSG, que c'est le collectif, que c'est le collectif, que c'est le collectif. Et bien moi, je ne peux pas détacher un joueur en disant il a été meilleur qu'un autre. Parfois, il arrive que dans un match, il y en a un vraiment.
Après,
qui
c'est
nous
des symboles de collectif,
yeux, c'est ce qu'on a dit souvent
Daniel,
de Kvara dans les gros matchs.
Après, c'est une question qu'on pose.
Mais là, ce soir, dans un match qui s'est disputé comme ça, très tactique, très figé. Moi, je suis incapable de dire un tel a été un peu mieux que l'autre. Ils se sont tous vraiment battus.
Je te rejoins, Daniel. Il y a juste un point, ce que je disais tout à l'heure, je trouve quand même très fort, puisque finalement, on se posait beaucoup de questions sur les blessures, le physique et. Que ceux, enfin, j'ai envie de mentionner ceux qui sont restés jusqu'au bout. Parce que c'est dur. Et ceux qui ont arrêté, même Dembélé, malheureusement, pour une raison de blessure, l'autre pour des crampes. Bon. Bah, il y a quand même ceux qui ont tenu 120 minutes et qui étaient encore là, éventuellement, pour essayer de tirer au
but. Quand je dis ça, c'est que d'un côté, évidemment, on ne fait que ça. Évidemment, on le sait que le foot, il faut glorifier le collectif. Ouais. Mais comme je ne suis pas dogmatique, j'aime aussi, c'était un peu ironique ce que je faisais. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des individualités. Et dans deux semaines, tout le monde relancera le débat. Est-ce que Dembélé va prendre un deuxième ballon d'or? Alors que dans le laps de temps qui va nous séparer de ces deux semaines, tout le monde dira non, il n'y a que le collectif, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de star, il n'y a plus. Ben si, Dembélé c'est une star, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de star au PSG. Kvara c'est une star, sauf qu'elles sont au service du collectif. Et que ce qui faisait mal au PSG pendant ces années, toutes ces années, c'était pas d'avoir des stars le problème, c'était que personne n'était capable de leur faire fermer leur bouche pour se mettre au service du collectif. En était-elle capable? Je ne sais pas. Si t'en es pas capable, il faut les virer. Mais rien ne dit qu'avec des stars, tu ne peux pas construire un collectif. Il faut juste que ces stars se mettent au service du collectif. Ce que le PSG était incapable de faire parce qu'il n'y avait personne pour leur dire de le faire. Parce que la présidence à l'époque n'était là que pour le développement des stars qu'elle mettait en avant. Mais moi, j'ai jamais pensé qu'aussi bien Emery Tuchel n'était pas des bons coachs pour gérer un collectif. C'est juste que la politique du club n'était pas alignée. Aujourd'hui, elle l'est. Complètement, et donc c'est parfait. Mais dans deux semaines, tout le monde dit collectif, collectif. Dans deux semaines, vous allez tous me dire ouais, Dembélé, il faut qu'il prenne un deuxième ballon d'or consécutif. Ouais, bah alors dans ces cas-là, non. Alors dans ces cas-là, on n'envoie même pas de joueurs pour disputer le ballon d'or. Moi, tout ce que j'ai entendu quand Dembélé a marqué le péno, partout au Parc des Princes, ici, il y avait quand même 300 personnes autour de nous. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane. Donc, il y en a des individualités, ça existe, c'est le foot, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des joueurs qu'on préfère, des joueurs qui sont des formes de héros, il y a des types qui sont un peu plus losers. Oui, tout le monde n'est pas au même niveau. Une équipe de foot, c'est. Voilà, on n'est pas dans le football communiste, ça n'existe pas.
Un point, alors je le mets dans l'évaluation parce qu'après j'ai peur d'oublier. On a quand même eu un débat important dans la saison sur les pénalités.
D'ailleurs, c'est à cause de ça que Dynamo Kiev et ne gagnait jamais les coupes n'allait jamais plus haut, s'ils en ont gagné une Coupe d'Europe. Mais justement parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte des individualités.
Sauf qu'ils en avaient une, Oleg Blokhin, qui était ballon d'or.
Exactement.
Quand même. Oui, mais en 75.
C'était limite après.
Mais juste un mot sur le pénalty, parce qu'il y a eu un gros débat dans la saison à plusieurs reprises sur qui allait tirer les pénaltys, puisqu'il y a eu beaucoup d'échecs. Je dis quand même que, pareil, dans le mental et dans ce qu'a fait Dembélé, ce soir, au moment d'aller tirer, puisqu'il y a eu tous les débats, est-ce que ça doit être Vitinha, ou ça aurait pu être Hakimi, ça aurait pu être Nuno, Mendes, c'est Dembélé qui y allait, qui a mis ce pénalty.
Parce que c'est le patron.
Qui est quand même.
C'est le patron.
Comme tu as dit, il y aurait sans doute eu 1-0 pour Arsenal sans ce pénalty. Quand même aller le mettre.
T'as vu qu'à un moment on a cru que c'était Vitinha qui retournait.
Ouais.
Il y avait
ouais.
une forme d'ambiguïté. Ouais, et puis en fait l'ambiguïté d'un coup elle s'est effacée. Qui est allé chercher le ballon?
Mais
la star de l'équipe.
On va parler
Dembélé,
on va parler de Dembélé.
Parce que c'est lui le patron, il faut y aller.
On va évaluer son match dans quelques instants. Mais d'abord David Alias nous appelle. Il est à Paris, porte de Saint-Cloud, à côté du Parc des Princes.
Aïe, j'ai peur que ça chauffe un peu.
L'ambiance commence apparemment à chauffer. David, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, bonsoir à tous. Ouais, c'est en train de chauffer juste derrière moi, comme vous pouvez l'entendre. Les CRS sont en train de charger la foule. On le disait il y a quelques jours, on avait peur que ça dégénère un petit peu entre supporters et forces de l'ordre. Et ça y est, c'est en train de basculer du mauvais côté de la fête. Feu d'artifice, donc pétard, jet projectile envers les forces de l'ordre. Et cette finale est en train de basculer du mauvais côté. J'espère qu'on ne se souviendra pas de ces mauvais côtés et qu'on retiendra quand même le titre du Paris Saint-Germain.
Très bien David, j'espère que tout va bien se passer. Bien sûr.
Tu ne mets pas en danger quand même.
Vitinha est en direct, il est en conférence de presse, on va pouvoir l'écouter un peu.
Cohabiter avec ça. Je pense qu'on a très 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 bien fait. C'est pas facile de surmonter tout ça. On a joué plusieurs matchs sans beaucoup de joueurs importants. Et même là, on a réussi à gagner, à faire de bons résultats. et à continuer à passer le temps, à gagner le match, à continuer à être là toujours, être présent. Et je pense qu'on est arrivé dans le match le plus important de la saison avec tout le monde, presque tout le monde, donc c'était encore plus incroyable parce que je ne pouvais pas passer, mais ça a passé. Et finir de cette façon-là, c'est le rêve ultime, je pense, à faire le back-to-back. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une fierté pour tout le monde, pour Paris, pour les gens de Paris, pour notre famille, pour nous tous. Je pense qu'on a mérité du début à la fin et on est tous heureux.
Voilà, Vitigny en direct en conférence de presse. On écoute.
Un des joueurs, en tout cas au milieu de terrain, qui avait le plus joué cette saison, Luis Enrique, ne pouvait pas se passer de vous. Est-ce que du coup ce titre de meilleur joueur ce soir ne vient pas aussi récompenser pour vous une saison toute particulière et votre rôle dans ce PSG?
Ça, je laisse avec vous comme toujours. Je pense que c'est important de parler d'équipe, de tout le monde, des joueurs qu'ils ont entrés, que je joue pas souvent, ils n'ont pas beaucoup de minutes. Je les ai dit personnellement, c'est... Ce que toute l'équipe fait, c'est incroyable, mais eux en particulier, c'est vraiment difficile d'entrer comme ça dans tout le match de la saison, avec peu de minutes parfois, parce que c'est pas tout le monde qui peut jouer, il y a que 11. Il y a forcément toujours des joueurs qui jouent moins, et ils sont toujours avec le sourire, ils sont toujours prêts à tout donner pour l'équipe, et ça fait de la différence, ça fait la différence avec le blessure qu'on a eux. Et aujourd'hui encore une fois, ils ont entré, ils ont bien joué, ils se sont battus jusqu'à la fin. Dans le penalty, ils ont été là, Gonçalo il a battu le penalty, Beraldo aussi. Donc ils sont incroyables. On a une équipe incroyable, un groupe incroyable. Mais parfois tu as ça, tu joues bien comme on joue, mais tu gagnes pas. Mais on peut ajouter ça, la cerise dans le top du gâteau, qu'on gagne. On a gagné aujourd'hui la deuxième Ligue des Champions et c'est vraiment un plaisir de pouvoir dire ça.
Allez, Vitigny, toujours en conférence de presse. On écoute encore une réponse. Et après, on reviendra à notre évaluation.
Je me rappelle que vous avez déjà commencé à parler de cette deuxième étoile. À l'époque, ça semblait très loin, y compris le coach, hein, et ça semblait incroyable. Comment, on parle souvent de sa force de persuasion, de conviction. Comment il vous a mis ça dans la tête et quelle est sa part de responsabilité dans cette foi incroyable de se dire que c'est possible de le faire?
C'est la même chose si tu me demandes maintenant pour la troisième. C'est encore loin. Il y a un chemin incroyable à faire comme on a fait cette année et l'année dernière. Franchement, il y a du temps pour tout. Il y a des étapes. Maintenant, c'est prendre le plaisir, c'est célébrer. C'est vraiment donner les félicitations à tout le monde. Parce que du staff, du président, du directeur sportif, de l'équipe, le staff technique aussi, le coach, tout le monde mérite. Ils ont fait... Tous nous ont fait un boulot incroyable. Mais oui, cette envie de vouloir gagner plus, de s'arrêter jamais. Je pense que Luis Enrique, il est vraiment le coupable de ça. Mais j'espère qu'il nous va continuer à pousser pour gagner encore plus. Mais comme j'ai dit maintenant, on n'a pas envie de dire, de parler du futur. On a envie de prendre plaisir et prendre plaisir de présent.
Dernière question pour Vitigna.
Allez, une dernière question et après
Vitigna, I would like to make you a question in English.
Ah bon, on va passer la question en anglais et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer l'évaluation ensemble ici jusqu'à minuit l'after, jusqu'à même 1h30 du matin. L'after continue après la victoire du PSG en Ligue des Champions. À tout de suite.
RMC, l'after foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.